Europe 1, en balade avec Pierre Palmade, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Pierre Palmade que nous partons en balade aujourd'hui. Pierre Palmade, c'est déjà plus de 30 ans de carrière qu'il raconte dans un livre intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre », un livre dans lequel il dit tout, absolument tout. Pierre Palmade nous a donné rendez-vous rue Lepic, sur la butte Montmartre.
Europe 1, 11h30, en balade avec Pierre Palmade, Frédéric Taddeï.
C'est rue Lepic, au niveau du Café des Deux Moulins, au 15 rue Lepic, le café rendu célèbre par Amélie Poulain, que nous retrouvons Pierre Palmade. Vous aviez vu Amélie Poulain, Pierre Palmade ?
J'ai vu, mais pour tout vous dire, je ne me souvenais plus que c'était ce café.
C'est là où elle est serveuse.
Je savais que c'était la rue Lepic, mais c'est surtout parce que c'est un souvenir de gamin, la rue Lepic. C'est la première rue qu'on m'a montrée en me faisant visiter Paris quand j'avais 10 ans.
C'est vrai ?
Oui.
Et le fait qu'elle monte, ne vous avez pas...
J'adorais, parce qu'il n'y a aucune rue qui monte à Bordeaux.
Et, c'est vrai.
Et cette rue qui monte comme à la montagne.
Avec tous ces commerçants.
Voilà, exactement. Je me souviens qu'il y avait une boucherie chevaline, et ma sœur pleurait parce qu'elle adorait les chevaux.
Mais les boucheries chevalines causent souvent des émotions, surtout aux enfants.
Moi, je m'en foutais un peu, mais,
c'est vrai
mais pas ma sœur.
Mais est-ce que vous mangez de la viande chevaline ?
Je mange tout ce qu'on met dans mon assiette. Donc,
comme un enfant bien élevé, au fond.
Oui, comme un mec qui ne veut pas mourir de faim.
Vous êtes certainement l'un des hommes les plus spirituels que je connaisse, Pierre Palmade.
Ça, par exemple.
Si, c'est vrai. Et je me suis toujours dit que c'était sans doute dû à votre politesse. Parce qu'on est poli, qu'on est spirituel, souvent.
Je crois qu'il y a un mélange de... Comment dire ? Pas de méchanceté, mais...
Ah, certainement pas. La politesse, pour moi, est une véritable valeur.
Il y a une élégance de s'empêcher d'être méchant.
Voilà.
Il y a des choses que j'aimerais dire et que mon élégance et mon éducation m'empêchent de dire. Et donc, ça se traduit en humour.
Exactement. Et je pense que c'est... Vous pensez que les gens sont intelligents. Vous ne les tirez pas vers le bas par la même occasion.
Ah, je suis... en fait, c'est pas de la gentillesse, c'est de la prétention. Je suppose qu'ils sont comme moi.
C'est de la politesse aussi.
Donc, je les prends pour des gens très intelligents. Et donc, je me dis, tiens, ils ont le même cerveau que moi. Et donc, je suppose qu'ils sont comme moi, assez vifs. Eh bien, écoutez, je crois que ça leur plaît, les gens qu'on suppose qu'ils sont intelligents. Dans l'humour, en tout cas.
Pourquoi avoir écrit ce livre-là maintenant, dites à mon père que je suis célèbre, et en plus chez un éditeur que je ne connaissais pas, HarperCollins.
HarperCollins, qui est connu aux États-Unis.
Si, il est très connu à l'étranger, mais en France.
En France, il s'implante.
Je
voilà.
Dis que c'est un peu snob de m'en choisir HarperCollins.
Je trouve ça très chic à dire, HarperCollins. Ça faisait longtemps qu'on me demandait de faire une bio, parce que je suis connu pour être transparent, même parfois trop, sur ma vie publique et privé, j'avais fait des confessions à droite à gauche et j'avais envie de les réunir dans un bouquin. Et puis à 50 ans, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de tourner une page. J'ai envie d'avoir une vie plus calme. Et puis là, elle commence à être plus calme de toute façon. Il faut que je reste vigilant, évidemment. Mais c'est un secret de Pulcinelle, mais j'ai beaucoup de problèmes avec l'alcool et la drogue et la cocaïne. Je voudrais vraiment arrêter ces problèmes et je voudrais arrêter... devenir complètement abstinent. J'arrive à le devenir la majeure partie du temps. Il y a un petit souci récemment. Mais normalement, voilà.
Essayez en disant tout sur ces sujets que vous pensez que vous pourrez arrêter. Parce que vous dites tout dans ce livre.
Ah oui, ça m'aide. Je parle de vraiment... Bien sûr que le fait que j'ai touché à la drogue, c'était peut-être connu de tout le monde, mais le fait que c'est une vraie maladie, la dépendance à la cocaïne, une drogue qui n'est plus réservée à l'élite, mais qui touche de plus en plus toutes les couches de la société.
Qui s'est démocratisée, notamment chez les jeunes,
d'ailleurs. Et popularisée. Et ce n'est pas un livre sur la prévention, mais vraiment, faites gaffe, les gars, et les filles, parce que c'est la drogue la plus sournoise qui existe. Et moi, ça m'a gâché ma vie. Ça m'a gâché ma vie. Et ça fait 10 ans que j'essaye de décrocher. Et je commence à y arriver, mais c'est dur. Il y a des rechutes.
Alors, vous dites absolument tout sur la cocaïne, effectivement, sur l'alcool, sur les boîtes de nuit, sur l'homosexualité, sur la célébrité. Tout a été, d'ailleurs, semble-t-il, pour vous, source de plaisir et en même temps, fort pénible.
Bah oui, c'était intense et violent. À 20 ans, tout m'est tombé dessus. La célébrité, l'argent, l'homosexualité et l'envie de le vivre la nuit dans un Paris gay, G-A-Y, très hystérique. Voilà.
Et que ça ne se sache pas, ce qui est assez étrange.
À l'époque, on pouvait cloisonner. Je pouvais être un bourgeois élégant et hétéro la journée. Et je pouvais être un homo décadent la nuit. Et j'adorais ce Jekyll et Hyde quand j'avais entre 20 et 30 ans. Puis à 40 ans, ça commençait à me peser. Et à 50, j'ai vraiment envie d'être quelqu'un d'un peu plus normal.
Ce que j'ai trouvé drôle en vous lisant, Pierre Palmade, c'est qu'au fond, tout ce que vous racontez, vous croyez l'avoir caché. Et je pense que, au contraire, tout le monde le savait. Votre public, en particulier, ne l'a jamais ignoré. Et il ne vous en aimait pas moins pour ça. Vous aviez tellement peur, en tout cas, quand on vous lit, on a l'impression que vous aviez peur que si ça se savait, on vous aimerait moins.
Bah parce que c'est un délit de prendre de la drogue. C'est,
On vous plaint dans ces cas-là, d'être homo, mais on vous en veut pas.
Oui, bah, pas tout le monde. Vous savez, moi j'écoute toujours le plus méchant et le plus médisant. Puis je suis un bourgeois bordelais, donc j'ai peur de faire quelque chose de pas bien.
En même temps, vous avez plus de 30 ans de carrière maintenant, vous êtes devenu très célèbre à 19 ans. On vous connaît depuis toujours. Vous croyez vraiment que tout ça pouvait nous échapper, j'ai envie de dire?
En tout cas, en l'écrivant noir sur blanc avec ces 30 ans de Paris gagné, on peut comprendre des choses. On peut comprendre que si je me suis drogué, c'est parce que je vivais mal mon homosexualité, que je la vivais mieux quand j'étais alcoolisé et drogué. Et que maintenant, ça va mieux. Je suis plus en paix avec cette homosexualité. J'ai dû passer par des couples avec des femmes. J'ai dû assumer d'être homo petit à petit. Ça a pris 30 ans.
Récemment, vous avez été accusé de viol et je pense que là aussi, personne n'a pensé une seconde que vous pouviez être coupable. D'ailleurs, vous avez été immédiatement relâché, innocenté. Et je pense que vraiment, personne n'a jamais pu penser que vous étiez coupable. Je suis sûr que vous avez eu peur. Vous avez dit, ils vont le croire.
C'est un cauchemar. Pendant 24 heures, c'est un cauchemar parce qu'un mec a menti pour se venger de moi, pour me faire chier.
Ce que tout le monde a imaginé, je suppose, tout comme moi.
J'espère. Enfin, je pense que ça a été clair. C'était vraiment une grosse connerie. Mais c'est surtout que voilà où ça me mène quand je retouche à la drogue. Ça veut dire que ça m'amène à des mauvaises rencontres et à des histoires à bracadabrande comme celle-ci, quoi, qui était une fausse accusation de viol. Comme ça peut être un peu à la mode en ce moment.
On se retrouve dans un instant avec Pierre Palmade. Notre balade ne fait que commencer.
Nous sommes en balade avec Frédéric Taddeï et l'humoriste Pierre Palmade jusqu'à midi et demi sur Europe 1, direction le célèbre quartier de Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris.
Nous sommes avec Pierre Palmade dans la rue Durantin, sur la butte Montmartre. Il y a des travaux, bien entendu, nous sommes à Paris.
Oui, on est une petite rue, mais je vous suis Frédéric. Moi, je serais passé par le haut, vous savez, il y a le moulin.
Ah oui, mais on peut tourner à gauche.
On peut faire ça. Je voudrais voir le
c'est
moulin.
C'est moi qui vous suis.
J'ai toujours l'impression qu'on va passer devant chez Dalida.
Oui.
Et j'adore.
Vous étiez fan de Dalida?
Comme tout gay qui se respecte, j'étais fan de Dalida et de ses robes.
Expliquez-moi pourquoi les gays aimaient tant Dalida, mais l'aiment toujours autant.
Pourquoi elle? Il y a des femmes faciles comme ça à imiter les gays ont envie d'imiter. Mylène Farmer, Dalida, Sylvie Vartan. On ne sait pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'une icône gay? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a des icônes gays masculines?
Oui, là on a le génial Xavier Dolan quand même qui parle ouvertement de homosexualité. Icône gay, David Bowie quand il se maquillait, c'était une icône gay. Patrick Juvet, moi ça a été un de mes premières idoles.
Il y a vous aussi peut-être.
Je sais pas parce que j'ai pas toujours été clair sur ma façon de parler de l'homosexualité. Ça n'a pas plu à la communauté gay parce que je disais que la société me rendait malheureux d'être homo. Puis maintenant, ça va mieux, je me suis consolé. Et puis, la société va mieux. Vous savez, on vit le tournant historique le plus fort sur l'homosexualité depuis ces 20 dernières années.
Vous les avez vécues, on peut dire.
Oui, je viens des années 80 où on ricanait des folles dans la cage aux folles. Et puis là, aujourd'hui, on se marie, on respecte les gens, les hommes qui s'aiment et les femmes qui s'aiment entre elles. Donc, moi, j'ai été dans ce virage-là.
Vous dites d'ailleurs que vous n'avez jamais eu à subir d'insultes, seulement quelques ricanements quand vous étiez en terminale. Vous parlez d'un élève oui. qui ricanait à votre propos et que vous avez retrouvé par la suite.
C'est-à-dire que je raconte que quand je commençais à tourner mal en terminale, je me teignais les cheveux, je commençais à sortir avec des garçons, je commençais à être un peu équivoque. Et ce garçon ricanait. 2 ans plus tard, je suis célèbre et puis son école de commerce me demande de faire un gala. Et je demande que ce soit lui qui me remette le chèque. Parce que voilà, ma vengeance, c'était lui qui me donnait de l'argent maintenant que j'étais célèbre.
Et voilà. Comment l'a-t-il pris ?
Je crois qu'il avait oublié qu'il ricanait. Comme beaucoup de gens qui vous ont fait du mal, ils oublient. Après, moi, je sais qu'il y a un professeur d'histoire qui mettait 0 tout le temps, et qui m'a demandé un autographe un jour dans la rue. J'avais envie de lui dire non, vous m'avez donné des 0 tout le temps. Mais non, il était content de me voir.
Et peut-être que vous méritiez les 0 ?
Non.
Vous êtes sûr ?
Non, j'étais plein de bonne volonté.
Je m'aperçois qu'on est en train de redescendre la rue Le Pic. Vous vouliez voir le moulin ?
Ah oui, je voudrais voir. Je sais qu'il y a un moulin dans cette rue Le Pic. C'est mais le moi, je la suis galette. La conversation plus que la rue Le Pic, vous comprenez ?
On a la chance, il fait très très beau. Presque aussi beau qu'à Bordeaux.
Il fait toujours un peu plus beau à Bordeaux, même si cette ville, je ne la reconnais plus maintenant qu'elle a été reconstruite entièrement. Mon Bordeaux à moi était beaucoup plus sale, beaucoup plus noir.
En arrivant à Paris, au fond, votre ambition, c'était de jouer au théâtre tous les soirs, mais pas d'être une star. Ça vous est vraiment tombé dessus ?
Ah oui, alors ça, c'est autant je voulais jouer tous les soirs au théâtre. Je trouvais ça magnifique quand on regardait le programme des spectacles à Paris, de voir 100e, 200e, 300e. Je me dis, putain, on peut jouer 300 fois un spectacle, c'est génial.
Ce qui arrive de moins en moins, vous avez remarqué.
À mon époque, en 90, c'était inimaginable de devenir célèbre. Maintenant, tous les jeunes qui sont drôles veulent devenir célèbres ou ceux qui chantent bien veulent faire le The Voice. Mais avant, c'était très marginal de vouloir être célèbre.
Voilà votre moulin de la galette. Regardez comme il est beau.
Ah oui,
au-dessus d'un espace vert.
Il y a pas un autre. Ah voilà, il y a un autre.
Et il y en a un autre un peu plus loin, effectivement, qui lui surmonte un restaurant.
Les gens nous entendent notre essoufflement parce que nous sommes quand même deux quinquagénaires qui remontons la rue Le Pic. C'est pas Kev Adams, c'est Gérard Holtz.
Dans cet immeuble-là, très joli. Vert et blanc habitait Gérard Houry.
Ah bon ?
Oui.
Tout l'immeuble ?
Non, pas tout l'immeuble. Au dernier étage, si je me souviens bien, j'étais venu le voir un jour.
D'accord.
C'était charmant, donc, il était déjà presque aveugle. Il ne voyait plus.
Et donc, Michel Morgan aussi ?
Non, parce qu'ils n'ont jamais vécu ensemble.
Ils se sont croisés de temps en temps, non ?
Oui, oui, bien sûr, mais ils n'ont jamais vécu ensemble.
Ah, d'accord.
C'était leur petite astuce pour que ça dure.
D'accord. Ah moi j'ai trouvé une astuce avec Véronique Sanson, c'est que je suis homo, donc ça va durer toute la vie.
Et c'est pour ça que vous voyez toujours et que vous aimez toujours.
Ah ça, on ne se séparera jamais. Plus le temps passe, plus on est lié. Parce qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard.
Alors voici l'autre moulin. Alors c'est celui-ci, le moulin de la galette, je les confonds toujours.
J'adore.
C'est celui qui est à l'angle de la rue Girardon et de la rue Le Pic. Voilà, c'est les moulins qui fonctionnaient encore à la fin du 19e siècle. Il y a une autre révolution que vous avez vécue, c'est quand vous arrivez, vous, jeune humoriste, il n'y avait pas encore eu l'explosion de la vidéo, des DVD.
Ah oui, c'est l'an zéro, les années 90, c'est l'an zéro de l'industrie de l'humour.
Ouais. Et qu'au fond, l'argent n'entrait pas en ligne de compte.
Ce n'était pas encore du show business, c'était très marginal, c'était de l'artisanat. Guy Bedos, Raymond Devaux, Sylvie Joly, Zouk, il y en avait quoi, 8 ? 8 stars du One Man Show, et c'était tout. Et quand on a commencé avec Bigard, Robin, Le Mercier...
Arrivant par la télé, vous tous, oui. La classe ou le petit théâtre de Bouvard.
Eh bien, l'humour est devenu une industrie. Et il y a des gens qui se sont dit, des producteurs, oh là là, on peut se faire du fric avec de l'humour. Et c'est pour ça qu'il y a eu une explosion dans les années 2000 d'humoristes qui aussi se sont dit, oh là là, c'est Las Vegas de faire de l'humour sur scène. Quoi.
À un moment, vous avez le choix d'ailleurs. Vous avez envoyé des textes à Guy Bedos. Il les trouve très drôles. Il veut les jouer sur scène.
C'est fou ça. J'ai 20 ans et je pique l'adresse de Guy Bedos dans le carnet de Sylvie Joly. J'envoie mes textes juste pour qu'il me dise que c'est bien. Et lui, en fait, il veut les jouer tellement il les aime. Ce qui est super flatteur. Et moi, j'hésite. Et j'ai bien fait parce que j'ai dit non à Guy Bedos. J'ai dit non, je vais les jouer moi-même. Il n'était pas content. Il me dit bah, bonne chance, si vous préférez commencer avec Guy Lux qu'avec Guy Bedos, bonne chance. Et j'ai choisi, voilà.
Guy Lux, c'était la classe. Hein, c'était
et
là.
J'ai choisi d'aller dans l'émission de Guy Lux, dans l'émission de la classe.
Et c'est là où vous devenez très célèbre à 19 ans.
Voilà. Je ne sais pas si j'avais encore tout mon talent, Pas celui de comédien, en tout
pas
cas.
Pas celui de comédien, non, vous cessez de le dire. Hein, vous n'étiez pas très bon à ce moment-là.
Non, non, je n'étais pas très bon, mais j'avais des textes. J'avais des colères comiques. Il y a beaucoup de gens qui m'énervaient et que j'écrivais en sketch et que j'ai l'impression de me venger de eux.
Mais sans jamais nommer personne.
Ah non, non, j'ai très peur de nommer quelqu'un. J'y arrive pas. Je ne sais pas si de l'élégance ou de la peur des représailles. J'ai peur que la personne...
Moi, je préfère penser que c'est la politesse.
Ouais, bon, d'accord.
On se retrouve dans un instant avec Pierre Palmade.
Bon dimanche sur Europe 1, en balade avec Frédéric Taddeï et Pierre Palmade. Il est 11h17. Frédéric Taddeï et l'humoriste se trouvent toujours dans le 18e arrondissement de Paris et devant la maison d'une célèbre chanteuse.
Nous sommes en train de descendre la rue d'Orchamps avec Pierre Palmade. La rue d'Orchamps, c'est là que se trouve la maison de Dalida.
C'est vrai ?
Bah oui.
Je sais pas.
Vous faire plaisir.
Je sais pas où elle était exactement, cette rue.
Elle est là, à droite.
Ah, c'est là, la maison de Dalida ?
Eh oui.
Ça, par exemple. Et les rideaux sont tirés, bien évidemment.
Et il y a une plaque. Dalida a vécu dans cette maison de 1962 à 1987. Ses amis Montmartre III ne l'oublieront pas.
La vache.
Grande et belle maison.
Oh, c'est beau.
Vous aimez Montmartre ?
C'est là vraiment que je me rappelle que je suis un provincial. Parce que c'est vraiment, ça ressemble à Paris comme nulle part ailleurs. Ça, c'est Paris, des pavés.
C'est le Paris de Doisneau.
Des rues cabossées qui tournent partout.
Dans votre livre, vous dites que vous avez un humour plutôt féminin. Quelle est la différence entre l'humour féminin et l'humour masculin pour vous ?
Schématiquement, à mon sens, l'humour masculin, ce sont des gens qui veulent avoir le pouvoir en étant drôles. Et d'ailleurs, sur scène, ils arpentent la scène en regardant. Ils se sentent drôles. On peut dire que c'est pour dominer les gens, un peu. Et puis, ils ont un peu tout compris. L'humour féminin, pour moi, est quelque chose qui vous impose moins de rire. Vous avez le choix de rire ou pas. Alors que dans l'humour masculin, le mec vous dit où c'est que c'est drôle et où c'est qu'il faut rire.
Je crois comprendre, par exemple, il y a certains de vos sketchs moi, que j'aime beaucoup, là où vous êtes peut-être le plus drôle pour moi, c'est quand vous parlez de quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout, ou éventuellement auquel vous ne connaissez rien. L'un de vos premiers sketchs, le colonel, quand vous parliez de l'armée, par exemple, hein, comme de quelqu'un qui ne comprend rien à l'armée, ou le football.
Ah, le football,
je me souviens de vous parlant du football sans rien y comprendre, ou quand vous vouliez être président de la République.
J'aime bien ma candeur, la vraie candeur que j'ai sur plein de sujets. Parce que je m'intéresse à pas grand-chose, aux gens seulement. Je parle avec les gens, mais la culture, la politique, ça me glisse dessus. Je suis pas un très bon citoyen et pas quelqu'un de très cultivé. Je suis juste quelqu'un qui adore parler et écouter parler.
Et quand vous écoutez parler en anglais, vous y comprenez quelque chose ? Parce qu'il y a beaucoup de touristes ici, hein. On est place Boudot.
Un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Je suis sorti avec un Norvégien récemment, j'y comprenais rien. J'adore essayer de comprendre la personne dans ce qu'elle ne dit pas. J'adore les sous-entendus. Je commence d'ailleurs mon livre avec cette phrase de Paul Valéry qui dit « Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. » Et c'est vrai que dès qu'on comprend les secrets des autres, je trouve qu'on se ressemble un peu tous. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que je dis tous mes secrets, que je n'ai pas de jardin secret. Parce que j'ai l'impression que je vais fraterniser avec les gens si je leur dis tout sur moi. Et je pense que même si je sais que j'en agace certains, parce que on dit « Oh, ça va, on sait qu'il est homo, oh, ça va, on sait qu'il est drogué, oh, ça va, on sait que ça... » Oui, d'accord, mais bon, écoutez, j'ai besoin de dire qui je suis et tout de moi, d'être tout nu tout le temps, parce que j'ai un très beau corps, voilà.
Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez ?
La politique dans ce qu'elle a de vrai.
Oui, parce que ça se démode. Hein.
Ça se démode et puis ça fâche.
Ouais.
Tout d'un coup, si on suppose qu'on est de gauche ou qu'on suppose qu'on est de droite, enfin, c'est surtout quand on suppose qu'on est de droite, que ça fâche énormément les gens de gauche, donc moi, je suis en ma gueule.
Vous racontez d'ailleurs dans votre livre, alors ce que j'ignorais totalement, c'est qu'il fut une époque où vous appeliez Nicolas Sarkozy. Généralement, quand vous étiez pas tout à fait vous-même.
Non, ça n'est pas. Carrément, c'était.
Et vous lui faisiez des propositions de loi.
Les ravages de l'alcool et de la drogue, c'est-à-dire au petit matin, quand j'avais pas encore dormi, que j'étais encore complètement drogué. J'appelais le ministère de l'Intérieur, c'est Nicolas Sarkozy, et évidemment, il savait pas que j'étais dans cet état-là. Mais je lui proposais des projets de loi. Il me prenait au téléphone parce qu'il adore les artistes, il adore les vedettes. Et moi, je discutais avec lui jusqu'à un jour, je crois qu'il a compris, il m'a plus pris au téléphone.
Oui, carrément.
Non, j'avais que sa secrétaire, après il y avait barrage.
Il y a la religion aussi, vous n'en parlez jamais, alors que c'est très à la mode.
C'est-à-dire que je trouve ça tellement démodé, justement, la religion, je trouve ça tellement passéiste, archaïque. Je ne vis pas avec des gens, je ne fréquente pas en plus des gens religieux. Dieu sait que je crois en Dieu, je suis très mystique, je crois vraiment à une puissance supérieure. Mais tellement pas aux religions qui ont été écrites par des hommes qui voulaient diriger d'autres hommes que c'est tellement de la manipulation, la religion, que ça ne m'intéresse même pas comme sujet.
Internet non plus, vous n'en parlez pas jamais, c'est parce que vous n'y connaissez rien ?
Parce que j'ai peur des choses actuelles. J'aime bien faire de l'humour intemporel, j'aime bien faire de l'humour sur les relations affectives, les relations...
Oui, vous avez fait le type qui drague sur Internet, ça vous l'avez fait par exemple.
Oui, oui.
Pas les téléphones portables et Internet, pas les...
Non, quand c'est trop moderne, quand c'est trop de l'actu...
Ça se démode.
Ouais. J'ai peur qu'on... Moi j'ai envie que mes sketchs soient drôles dans 200 ans.
Oui, Molière ou rien.
Voilà, Oscar Wilde ou rien.
On continue notre balade avec Pierre Palmade sur la butte Montmartre. Mais d'abord, on va écouter, ça s'impose, hein, Montmartre, chanté par Georges Chelon.
D'accord.
Tant pis pour vous si la place du tertre a préféré Montmartre. Si le lapin agile inspira Utrio bien mieux que l'opéra. On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse. On vous laisse nos marches pour grimper jusque-là. Tant pis pour vous si la nuit, quelquefois au clair d'un réverbère, on croise Boris Vian, venu nous dire un petit bonjour en passant. On échangerait bien si ça pouvait se faire, un bout du Sacré-Cœur contre Ménilmontant. Tiens, tiens, un Parisien se promène avec l'accent de la Seine. Que vient-il faire dans nos murs? Tiens, tiens, c'est pourtant jour de semaine. Moi je sais ce qui l'amène. C'est tout simplement l'air pur. Tant pis pour vous si les gamins chez vous ne courent plus dans les rues. Si malgré les années la dame du café vous reste une inconnue. Si vos fleurs au balcon ou plutôt aux fenêtres ne tiennent plus le coup que de 3 jours, peut-être. Tant pis pour vous si au milieu des peintres et des joueurs de cartes, les amoureux du monde se sont donné le mot pour s'embrasser ici. Et si l'on dit partout que Paris, c'est Montmartre, nous on dit que Montmartre n'est pas vraiment Paris. Tiens, tiens, un Parisien se promène avec l'accent de la Seine. Que vient-il faire dans nos murs? Tiens, tiens, c'est pourtant jour de semaine. Moi je sais ce qui l'amène. C'est tout simplement l'air pur. Tant pis pour vous si la place du tertre a préféré Montmartre. Si le lapin agile inspira Utrio bien mieux que l'opéra. On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse. On vous laisse nos marches pour grimper jusque-là. Tant pis pour vous si la nuit, quelquefois au clair d'un réverbère, on croise Boris Vian, venu nous dire un petit bonjour en passant. Mais tout bien réfléchi à faire ou pas à faire. Car dans le Sacré-Cœur et vous Ménilmontant. Mais tout bien réfléchi à faire ou pas à faire. Car dans le Sacré-Cœur et vous Ménilmontant.
C'était Georges Chelon interprétant Montmartre. Il fait toujours aussi beau, il y a beaucoup de touristes et on continue notre balade avec Pierre Palmade dans un instant.
Pierre Palmade, c'est plus de 30 ans de carrière. Il se dévoile d'ailleurs pour la première fois dans une autobiographie dite « À mon père que je suis célèbre » parue jeudi aux éditions Harper et Collins. C'est le célèbre humoriste et jusqu'à midi et demi en balade avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous descendons la rue Ravignan avec... Pierre Palmade.
On est devant le 1 bis.
On est devant le 1 bis, effectivement. Nous sommes toujours à Montmartre. Dans ce livre, vous racontez beaucoup de choses. Vous êtes un des rares à entrer à ce point dans les détails de ce qu'avait pu être votre dépendance à la cocaïne.
Parce que c'est une vraie maladie. Hein. Il y a d'ailleurs des groupes partout dans Paris qui s'appellent les narcotiques anonymes, les alcooliques anonymes. qui se réunissent pour se soutenir, pour s'aider à être abstinent. La médecine est impuissante devant la dépendance à la drogue. On ne peut s'en sortir qu'en étant aidé, qu'en étant abstinent, qu'en faisant attention à ne pas tomber dans les pièges. C'est un travail très, très, très dur. Voilà.
Que vous avez fait ?
Que j'ai fait et que je fais et que je ferai toute ma vie, parce qu'on ne guérit jamais, on peut juste être abstinent tout le temps. Il y a des gens qui sont abstinents depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est une maladie qu'on a à vie. Par contre, on peut ne plus jamais prendre de drogue tout en étant dépendant. Je ne sais pas si on comprend.
Oui, je comprends.
C'est-à-dire on peut être dépendant, passif, et c'est-à-dire ne, être abstinent.
Nous sommes dans la rue des Abbesses, il y a beaucoup de commerçants. Il y a un sujet dont vous parlez très peu dans votre livre, c'est l'argent. C'est votre côté bordelais ?
Oui, l'argent, j'ai un petit peu... C'est vrai que j'aurais honte de dire à quel point j'en ai gagné. À quel point, dans les années 90, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent parce que j'étais auteur. Co-auteur des sketchs de Muriel Robin, auteur, c'est des pourcentages sur les recettes. Et ça fait que j'ai plus d'argent que j'en avais besoin. Et j'ai tout claqué dans la bringue parce que j'ai payé pour tout le monde, les boîtes de nuit, les hôtels.
Vous ne regrettez rien ?
Je regrette rien parce qu'il me reste encore un peu d'argent, pas beaucoup. J'ai tout mis dans ma maison de campagne. Mais dans mon éducation, on ne parle pas d'argent, ça c'est vrai.
Vous avez beaucoup écrit pour les femmes, un peu comme Gainsbourg d'ailleurs, au fond, vos plus grands succès, c'est avec des femmes.
Bah ouais, on n'a pas que ça en commun. Gainsbourg, mais... Parce que les femmes drôles me fascinent. Alors je commence maintenant à arrêter de faire une exclusivité, mais il y a une époque, une femme drôle, pour moi, c'était le charme maximum, quoi. C'était le courage. Le courage d'être drôle pour une femme, alors qu'on leur apprend à être belle et intelligente.
Oui, qu'en France, en plus, on n'a pas cette culture qu'ont les Américains de la dame blonde, la blonde idiote, la blonde rigolote. Nous, non. Une femme drôle, on ne trouve pas ça sexy, les Français.
Eh oui, d'ailleurs, les femmes drôles en souffrent, parce que souvent, elles dépriment quand elles se rendent compte que même ses lèvres, une femme drôle, bah, ça excite moins qu'un homme drôle. C'est très injuste culturellement, mais c'est comme ça.
Mais c'est peut-être en train de changer, ça aussi.
Et c'est en train de changer, elles ont pris le pouvoir un petit peu, là.
Mais à vous entendre, on dirait que ce sont un peu comme Gainsbourg, d'ailleurs, qui n'avait guère de succès avant d'être très âgé, d'ailleurs, sur son propre nom. Il fallait qu'il gagnait de l'argent en faisant des tubes avec des femmes, Birkin notamment. Vous avez eu quand même beaucoup de succès sur votre seul nom. Vous avez rempli
sur mon nom, ça allait, mais je pense que si je n'avais pas été joué, si je n'avais pas coécrit les sketchs de Muriel Robin, je serais pas allé aussi haut.
Oui, vous dites, vous n'avez jamais été numéro un.
Non, moi j'ai toujours été là. Ouais. J'ai toujours eu mon petit succès, mais j'ai vu des gens démarrer plus haut que moi, partir à la mode, se démoder. Avoir été le co-auteur de tous les grands sketchs de Muriel, ça m'a...
Et notamment des premiers d'ailleurs. Hein.
Ça, oui, des premiers qu'elle va reprendre à la rentrée.
C'est avec vous qu'elle a décollé, elle va les reprendre à la rentrée. Moi, ça m'a toujours fait rire d'ailleurs, Muriel Robin, je crois qu'elle a fait toute sa carrière avec 20 sketchs.
Mais elle le dit elle-même, hein, le gros de sa carrière, ça a été 20 sketchs.
Vous, il y en a eu combien ?
Ben moi, il y en a eu 50, mais aucun de très, finalement, très... Il y a quoi ? Le colonel, le Scrabble, le joint... Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu palmadiens, qui sont accros à mes sketchs, mais je n'ai pas fait une carrière aussi puissante que Muriel ou que Foresti.
Mais vous avez lancé un courant, d'une certaine manière, parce que si bien Florence Foresti dit d'ailleurs qu'elle est dans le courant de Pierre Palmade.
Elle le dit, oui, elle dit que c'est moi que je fais partie de ses inspirations.
Muriel Robin, bien sûr.
Je crois qu'Alex Hutt aussi a été très, très inspiré, et puis très, très content qu'on travaille ensemble.
Et puis, il y a tous les jeunes que vous avez lancés.
Oui, dans la troupe à Palmade, ça c'est incroyable. Je suis content de la relancer, cette troupe. Tous les derniers dimanches de chaque mois, on va tous se retrouver avec mes comédiens. Et
au Théâtre de l'Œuvre, c'est ça ?
Au Théâtre de l'Œuvre, autour d'un invité d'honneur. Bah là, justement, c'est Muriel Robin qui a fait la première dimanche dernier.
Il va y avoir Pierre Richard.
Et Pierre Richard le 26 mai, voilà. Et Isabelle Nanty après.
Mais cette troupe, elle date de... Enfin, vous l'avez
elle a 10
en
ans.
2005, vous l'avez arrêtée en 2017, non c'est
Exactement.
Ça
on a fait 10 ans ensemble. Après, ils travaillaient tellement tous que je n'arrivais pas à les réunir, donc on a
Parce
arrêté.
Il y en a plein qui sont devenus célèbres. Arnaud de Samer, Camille Cotin.
Sarah Soucault maintenant. Anne-Elisabeth Blateau qui est dans Scène de ménage. Allez les voir, même sur Internet, il y a plein de sketchs sur la troupe de la troupe à Palmade.
Est-ce qu'il y a les vôtres sur Internet ?
Oui, parce que je m'occupe de ma chaîne YouTube. Vous savez, je suis obsédé par ma postérité.
Oui.
Donc je fais en sorte qu'on se souvienne bien de tout de moi.
Si quelqu'un demain, un jeune comédien, vous demandait de l'autorisation de rejouer vos sketchs, vos premiers sketchs, vous lui donneriez ?
Je lui demanderais de me montrer en audition d'abord, parce qu'il faut les jouer avec une vraie vérité, mais oui. Bon, bah oui, c'est flatteur.
Ouais.
Si ça se trouve, il les jouerait mieux que moi, puisque je n'étais pas forcément très bon comédien au début.
Restez avec nous, notre balade avec Pierre Palmade continue.
En balade avec, c'est chaque dimanche sur Europe 1. Aujourd'hui, Frédéric Tadei est accompagné de Pierre Palmade. Découvrons avec eux le quartier de Montmartre à Paris.
Nous sommes rue Tourlac avec Pierre Palmade.
Alors, c'est pas une rue forcément que j'avais demandé. C'est loin de la rue Le Pic. Hein.
Mais elle est jolie aussi. Elle descend.
Elle va être bien cette rue. Là, elle est un peu en travaux, mais on sent que...
Elle descend vers le cimetière Montmartre. En lisant votre livre, je me suis souvenu que vous aviez fait une prépa HEC.
J'ai commencé, oui. J'ai fait 3 mois de prépa HEC, bac plus 3 mois.
Et quels souvenirs vous en gardez ? Est-ce que vous passez très vite là-dessus ?
Comment dire, d'une formation à l'état d'adulte qui m'a choqué, parce qu'on nous préparait à être des futurs patrons, des futurs commerçants. Enfin, là, je me suis dit que là, on n'était plus dans l'enfance. Il fallait bosser pour travailler, avoir un métier, éventuellement une femme et des enfants. Et là, on commençait à vous programmer une vie qui, là, m'a fait fuir. C'est la prépa HEC m'a fait dire qu'il fallait que je parte à Paris.
C'est votre prof de philo qui vous encourage d'ailleurs, le prof de philo de la prépa HEC qui vous dit barrez-vous.
C'est ça. Je suis très mal à l'aise dans cette prépa HEC. Je le dis à mon prof de philo qui me dit je ne devrais pas vous le dire, mais barrez-vous, vous n'avez rien à faire avec ces épiciers. Je suis désolé pour les gens qui ont fait HEC, mais voilà.
Vous imaginez si vous étiez resté, si vous aviez fait HEC ? Aujourd'hui, vous auriez certainement un chalet au sport d'hiver.
Mais je ne sais pas, foutu comme je suis, j'ai du mal avec la frustration, j'ai du mal à... Je ne sais pas me forcer. Et donc,
vous auriez pu être dans la pub.
Oui, mais vous savez, je sentais que j'étais artiste et je sentais que j'étais homo. C'était deux choses que je ne pouvais pas faire à Bordeaux.
HEC ?
À HEC, mais pas à Bordeaux en 1988.
C'est ça qui vous aurait fait partir.
Ah oui, vraiment. Je sentais que je ne pouvais pas vivre ma sexualité comme je la pressentais. Et surtout que je ne pouvais pas faire du théâtre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, comme on fait à Paris.
Est-ce que vous saviez que vous étiez auteur déjà ?
Non. Je ne suis pas un littéraire. J'écrivais parce que je n'avais pas de culture. Et donc j'écrivais, je reproduisais des dialogues que j'avais eus ou que j'avais entendus. Mais mes premiers droits d'auteur, je me suis dit « Ah bon, je suis auteur ? C'est dingue ça !» Mais j'écris pas par plaisir, j'écris par nécessité parce qu'il me faut du matériel pour aller jouer. Et comme je lis pas, là dernièrement j'ai joué des textes des autres, j'ai joué une pièce de Bégodeau, de François Bégodeau avec Catherine Miégel.
Le lien.
Et je me suis dit, ah ok, il y a d'autres gens qui écrivent. Non mais j'ai peur de lire les autres parce que j'ai peur de savoir qu'il y a des gens qui ont pensé avant moi, qui ont vécu avant moi. J'ai peur de plus rien avoir à dire si je lis trop les autres. Donc j'essaie de découvrir tout par moi-même.
Mais Molière, que vous prenez souvent comme référence, vous l'avez lu quand même ?
Je l'ai un peu lu, c'est bien, je viens de découvrir Marivaux,
c'est
et
bien
c'est beaucoup mieux. Alors j'adore, elle est sensuelle sa langue à Marivaux. J'ai demandé à Catherine Yégel si elle ne voulait pas qu'on monte à Marivaux ensemble.
Ah oui, vous vous aventurez désormais vers les classiques.
Ouais, mais j'aimerais bien devenir un comédien un peu plus classique. Quand je dis au début du livre que je voudrais plus être Claude Riche que Serge Gainsbourg, c'est vraiment ça, j'aimerais... Même au cinéma, être un bon second rôle, quelqu'un auquel on pense de temps en temps. Vraiment quelque chose de beaucoup moins hystérique que la vie que j'ai menée dans le showbiz, dans l'humour du showbiz.
Mais le cinéma, c'est vrai, ne vous a jamais ouvert grand ses portes, mais je n'ai pas l'impression que ça vous intéressait beaucoup.
Ça ne m'intéressait pas. Et puis la vie que j'avais, c'est-à-dire je vivais la nuit et je dormais la journée, c'était difficile.
Maintenant, ça va aller.
Maintenant, voilà. Maintenant, je me dis, bah oui, je pourrais être engagé sur des films maintenant. Je pourrais être joué. Et puis, je ne sais pas. Je trouve que j'ai une coiffure plus normale. Tout est plus normal pour être pris dans des films.
D'où elle sortait, cette coiffure, d'ailleurs ?
Pas des chanteurs des années 80, mais elle était ou démodée ou trop en avance, mais elle n'était pas dans son époque.
Mais vous mettiez...
Beaucoup de temps à faire.
Ah, oui, c'est ça. Il y avait des produits gras pour la faire se dresser.
Exactement,
comme ça.
Exactement, se dresser, puis du gel, du spray. Enfin, c'était... Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne se moquait pas. À l'époque, on ne me disait rien. C'est que 15 ans plus tard, que tout le monde s'est mis à s'en moquer.
Mais c'est souvent le problème de la mode. C'est pour ça que vous ne voulez pas faire les trucs qui se démodent en humour.
Voilà, il n'y a que j'ai raté mon coup sur la coiffure.
Parce que regardez, dans les années 70, tous les gens qui mettaient des cols pelle à tarte ou des pantalons à pattes d'éléphant, ils trouvaient ça très joli. Mm. Ça n'est qu'après qu'on s'en est moqué. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que vous ne vous habillez pas du tout à la mode.
Ah non. Non, non, non. Puis la mode me fait peur. J'ai l'impression de me confondre avec tout le monde. J'ai très besoin d'être singulier. J'ai très besoin de me faire remarquer. Alors, des fois, un peu trop.
Dans l'humour aussi, vous faites attention à ne jamais aller sur les territoires qui ont déjà été explorés par d'autres.
J'ai très peur du déjà-vu. Ouais, je cherche vraiment ce qui n'a pas été encore fait ou ce qui n'a pas été dit de telle façon.
Là, devant nous se dresse le Terrace Hôtel. Il date de 1911. Il est rue Jodève de Mestre. C'est là où ont habité Colette, Michel Simon, Jean Genet, Pierre Brasseur, une de vos idoles. Non, c'est Claude Brasseur.
Pierre Brasseur, mon idole et ami, c'est Claude Brasseur.
Voilà. Ben, son père a vécu ici.
Grand Pierre Brasseur.
André Breton a vécu ici aussi.
Ah, je connais moins bien, vous voyez.
Oui, ben non. Oui,
vous savez que vous parlez à un inculte, hein, je vous rappelle.
Oui, vous le rappelez assez souvent. Bon, on va monter en haut du Terrace Hôtel avec Pierre Palmade. Et pendant ce temps-là, je vous propose d'écouter La Complainte de la Butte par Cora Vauquer, cette circonstance.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
C'était La Complainte de la Butte, chantée par Cora Vauquer. On se retrouve dans un instant sur la terrasse du Terrace Hôtel.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr Europe 1, une terrasse qui offre l'une des plus belles vues de Paris. C'est En Balade avec Frédéric Taddeï et Pierre Palmade.
Nous sommes sur la terrasse du Terrace Hôtel avec une vue formidable sur Paris. On voit se dresser la tour Montparnasse et la tour Eiffel.
Qui sont d'ailleurs toujours dressées. Hein
toujours, toujours dressées.
Elles ont rarement été...
Et nous avons devant nous dressé également Emmanuel Bougerolles et Benjamin Gauthier qui font partie donc de votre troupe, Pierre Palmade. La troupe à Palmade, ça s'appelle toujours comme ça.
Ils sont comédiens autonomes, mais ils font aussi partie de la troupe à Palmade. Ils ont accepté d'en faire partie, ce sont deux génies. Benjamin Gauthier, j'ai déjà joué sur scène avec lui, et Emmanuel.
Dans Le Fils du Comique.
Dans Le Fils du Comique, il jouait mon petit copain. Et puis Emmanuel, elle fait des petites scènes, plein de scènes géniales dans la troupe à Palmade. Et en ce moment, vous jouez d'ailleurs, entre vous.
On joue tous les deux, Benjamin et moi, dans Jean-Louis XIV au Théâtre des Béliers.
Voilà un joli titre.
Mis en scène par un autre membre de la troupe à Palmade. Nicolas Lumbreras.
Et avec d'autres membres de la troupe à Palmade.
Avec l'intégralité des membres faisant partie de la troupe à Palmade.
Non, mais c'est vrai que ça a été une famille, cette troupe.
C'est votre petit conservatoire de Mireille à vous.
Exactement, mais je l'ai fait, le petit conservatoire de Mireille. Et j'en ai retenu...
Le petit conservatoire de Mireille, il faut le rappeler pour ceux qui n'étaient pas nés.
Mireille était une chanteuse des années 30 qui est devenue professeure intransigeante et exigeante dans les années 60. Et elle a monté le petit conservatoire de Mireille, d'où est sorti Jacques Dutronc, d'où est sorti Françoise Hardy. Sylvie Joly, moi-même, et elle formait des personnalités. Mireille, comme je fais dans ma troupe, elle veut des gens qui, dès qu'ils arrivent sur scène, on est intrigué, on est attiré, on rit. Et Benjamin, il a une folie sur scène. Il fait des choses qui ne sont pas répertoriées dans les effets comiques classiques. il fait des... Non, mais je croyais que j'avais tout vu avec Jacqueline Maillan, je croyais que j'avais tout vu avec Michel Roux et Louis de Funès. Et ben Benjamin trouve des effets comiques qui viennent d'une autre planète.
Tu ne fais pas exprès, Pierre.
Si, tu fais exprès.
C'est vrai qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas. Je parle pour eux. Et Emmanuel, qui chante, qui danse et qui joue la comédie. Voilà.
Il est bon prof, Pierre Palmade. Est-ce que vous le voyez comme un prof?
Non, il n'est pas prof.
Non.
Non, ce n'était pas exactement
il ça. Il est coach, maintenant on dit coach.
Ben, c'est un regard surtout. Voilà. Ouais. C'est, il réagit à l'instinct. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais à l'instinct, donc il voit des gens et puis tout de suite, il dit ce qu'il y a, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, le rythme, comme il dit, les personnalités. Mais c'est plus un regard qu'un professeur, en tout cas.
Bah oui, j'étais déjà comédien aguerri. C'était un directeur de troupe. C'est oui, quelqu'un c'est qui entraîne au même titre que Savary ou Deschamps ou même Ribes, Jean-Michel. Mon talent, c'était de fédérer tout le monde et de savoir qu'ils allaient s'entendre les uns avec les autres.
Mais vous jouez quoi les derniers dimanches de chaque mois? Vous jouez vos propres textes, les textes de Palmade?
Alors, on joue nos propres textes. Enfin, moi, personnellement, je n'écris pas, donc je ne fais que jouer. Mais c'est le principe de la troupe. Chacun écrit pour les uns, pour les autres.
Ah non, alors ça, c'est le principe du collectif.
Du collectif.
La troupe, il y a un auteur, il y a un metteur en scène. Molière, c'était une troupe.
C'est ça, c'est, voilà.
C'est, vous, c'est non, un collectif.
C'est le collectif à Palmade. Et donc, on joue effectivement des scènes qu'on a écrites. Et,
voilà un café pour, merci. Je pour les, Benjamin.
C'est pas du tout des petits one-man show. C'est vraiment, ils sont obligés de jouer à deux ou à plusieurs. Donc, ils sont obligés de s'aimer les uns les autres. Et je leur dis qu'il n'y a pas besoin d'être auteur pour savoir écrire, ce qui est vrai. Il n'y a pas besoin d'être un auteur pour savoir écrire. Et il y en a beaucoup qui se sont révélés auteurs, qui se sont découverts auteurs. Emmanuel, je ne sais pas si tu as essayé d'écrire.
Pas encore, mais je n'ai pas encore eu l'audace. Mais ce que je voulais rajouter tout à l'heure, ce n'est pas juste effectivement un directeur de troupe, parce que beaucoup d'auteurs ont émergé de ces ateliers. Parce que c'est l'acuité de Pierre à observer les textes proposés par les acteurs qui a permis de faire émerger des auteurs et les mettre en confiance. C'est un scanner, quoi. Il regarde les scènes. Nous, acteurs, on regarde les scènes des copains. On se demande ce qu'il va bien pouvoir trouver à dire. On sent quelque chose cloche ou quelque chose marche. Et lui, il formule tout ça. En général, on est tous d'accord, quoi. Il met tout le monde d'accord.
Il y a des scènes de l'atelier qui sont devenues des pièces à part entière.
Des thèmes qui se dégagent de scènes et qui sont ensuite amenés à se développer pour devenir des pièces.
En fait, c'est la factory d'Andy Warhol plus que le petit conservatoire de Mireille.
Non, mais effectivement, c'est le Big Bang de plein de débuts de pièces. Il y a même des films qui se forment. Il se passe plein de choses dans cette troupe. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, je suis fan d'eux. Je crois que c'est important parce qu'un prof, c'est quelqu'un qui sac. Moi, je les admire. Donc, je suis leur premier fan. Et j'attends pas qu'ils soient célèbres, certains le deviennent, mais j'attends pas qu'ils soient célèbres pour les admirer. Et je leur dis à quel point ils sont géniaux, et je pense que c'est important d'avoir un fan Autant qu'un prof.
Parmi vos rares échecs, au fond, il y a cette émission qui s'appelait Made in Palmade, qui était sur France Télévisions, je crois, où il y avait des jeunes humoristes, mais il fallait les virer. C'était pas du tout votre truc, ça.
Non, on m'avait demandé de faire... Moi, je voulais faire le théâtre de Bouvard pour lancer ma troupe. Et on me demandait de les saquer, de leur donner des mauvaises notes, des bonnes notes. Et donc,
oui, c'est
ça...
la mode, maintenant.
Oui, ça qui fait le buzz, du coup.
Oui, c'est ça. Et ça n'avait pas fonctionné comme je voulais, parce que... Alors qu'il y avait des gens comme Arnaud de Samer, Alex Lutz, Anne-Elisabeth Blateau, il n'y avait que des petits génies. Mais le concept de la chaîne ne marchait pas avec ma façon de vouloir présenter les choses. Mais ça m'a donné envie d'écrire le comique après, la pièce avec ma troupe, pour montrer que c'était l'échec venait de la télé et pas de moi.
Ah. C'est drôle comme vos titres ne mentent jamais, au fond. Les titres de vos spectacles, c'est toujours la vérité vraie. Ah oui, ne ment jamais. Ouais.
Rien ne ment chez moi.
Ouais. Non, mais c'est... c'est quoi le titre de votre premier spectacle ? Ma mère aime beaucoup ce que je fais.
Ma mère aime beaucoup ce que je fais.
C'était vrai.
Après, je commence à devenir célèbre. Alors, ça s'appelait On se connaît. Voilà.
On s'aime, c'était
le
vrai.
Le dernier, c'est Aimez-moi. J'étais en déficit d'amour, de confiance.
Je n'ai jamais été aussi vieux, c'est vrai. À ce moment-là, vous n'aviez jamais été aussi vieux.
Oui. Ça marche à tous les âges. Et la troupe à Palmade, c'est vrai. Sauf que c'est pas français. Non. Il y a quand même des gens pas très vifs qui me reprennent sur le... Ils me disent non, ça, on ne dit pas la troupe à Palmade, on dit la troupe de Palmade.
Mais nous-mêmes, on se justifie régulièrement.
Ah oui.
C'est au Théâtre de l'Œuvre. Ça vous plaît comme théâtre ?
Ah, c'est hyper bien.
C'est royal.
Ah oui, c'est très joli. Ouais.
Dimanche dernier avec Muriel, voilà, on sait. Maintenant qu'on a un invité d'honneur... Tout le monde joue avec l'invité d'honneur. Il y a un final où on est tous sur scène. On est 15 sur scène. Ça va être bientôt...
Parce que vous êtes sur scène aussi, vous.
Ah, moi, je joue sur scène. Ah, maintenant, c'est des copains. Je fais partie de la troupe. Et voilà, au même titre qu'eux, je veux être... On est devenu une bande de copains en 10 ans maintenant. C'est notre splendide à nous.
Ça vous amuserait de réaliser un film ?
Oui, j'aimerais bien faire un premier film, savoir ce que je suis capable de faire au cinéma.
Il ne vous reste plus qu'à l'écrire.
Oui. Oui, mais maintenant que... J'ai du temps et de la discipline, ça va être possible.
Ben merci tous les deux de nous avoir rejoints au sommet du Terrasse Hôtel. On va continuer notre balade avec Pierre Palmade, direction le Théâtre Saint-Georges.
Tu te souviens du Théâtre Saint-Georges ?
Eh oui.
C'est là où on s'est aimé.
C'est là.
Sur scène.
C'est là où vous faisiez le fils du comique ?
Là où on jouait le fils du comique, où j'essayais de mettre en compétition... Ouh, j'ai mon portable, j'ai oublié d'éteindre.
C'est pas grave.
Oui, je vous dis ce qui c'est qui m'appelle ?
Oui.
C'est mon avocat, mais tout va bien.
On se retrouve avec Pierre Palmade, si possible, juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Pierre Palmade, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Pierre Palmade. Une voiture vient de nous déposer sur la place Saint-Georges, au centre de laquelle trône un monument à la mémoire du dessinateur satirique Paul Gavarni. Vous le connaissiez ?
Pas du tout. Moi, je ne savais même pas que c'était Paul Gavarni. Ouais. Moi, dès que je vois une statue, je crois que c'est Victor Hugo, de toute façon.
Ah oui ? Et non, celui-ci, c'est Paul Gavarni. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en bas du socle. Vous voyez les quatre têtes sur le socle.
Monsieur,
il y a un arlequin, un rapin, une lorette et un débardeur. En fait, ce sont les personnages du Carnaval de Paris. Aujourd'hui, tout le monde a oublié que pendant des siècles, du Moyen-Âge jusqu'aux années 50, il y a eu un carnaval à Paris. Et c'est la seule trace qu'il en reste. Vous imaginez, vous, qu'il y avait un carnaval à Paris ?
Non, j'adorerais. On connaît que celui de Venise ou de
Rio. Et voilà, et le nôtre,
de Rio.
Et le nôtre était fantastique. Les Américains l'adoraient. On le voit dans des films américains. Mais nous, les Français, on l'a complètement oublié. Il n'y a plus que ces quatre personnages qui sont là.
Que fait la culture ?
Eh oui, c'est bizarre, hein. C'est bizarre.
Mais moi, c'est surtout la place Saint-Georges, c'est le théâtre Saint-Georges.
Ouais.
Parce que le théâtre Saint-Georges, c'était le temple du boulevard. Le théâtre de boulevard que j'adore tant, c'est-à-dire Jacqueline Maillan y a joué plein de fois, Maria Pacôme, il y a des affiches où avec Jacques Balutin, Jean Le Poulain.
Oui, au théâtre ce soir. Quoi.
Jean Lefebvre, toutes mes idoles comiques. J'y ai joué, j'avais fait le remake de 13 à table,
ouais.
Et j'ai joué le fils du comique, une pièce que j'avais écrite avec Camille Cotin, Anne-Elisabeth Blateau et Benjamin Gauthier qu'on vient rencontrer.
Et c'est là que François Truffaut a tourné les scènes du dernier métro.
Ah oui, c'est vrai,
ouais.
Je l'oublie toujours. Oui.
Ouais. Il y a des enfants. Vous n'en voulez pas, vous, hein ?
Si.
Si.
Mais il faut que je trouve quelqu'un qui est d'accord pour s'en occuper quand ils seront en bas âge. Parce que moi, les enfants en bas âge, à partir de 8 ans, 9 ans, quand ça parle, ça va. Enfin, ça parle avant, mais...
Vous dites quelque chose de très joli dans votre livre, d'ailleurs. Dites à mon père que je suis célèbre. Vous dites que vous voulez toujours des enfants à 8 ans, parce qu'en fait, c'est l'âge auquel vous avez perdu votre père.
Oui.
Et que vous voulez reprendre la conversation là où elle s'est interrompue.
Exactement.
Je trouve que c'est très joli.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mon père me manque depuis que j'ai 8 ans.
Vous en parlez beaucoup dans ce livre. Ça a dû être dur, non, de reparler de tout ça?
C'était... Non, tout avait un lien, tout avait un sens maintenant. Mais très longtemps, j'ai cru que c'était une chance, la mort de mon père. J'ai cru que plus personne m'engueulait. Ou... Il n'était pas sévère du tout, hein, mais il était très aimant. Mais j'ai cru que je n'avais plus d'autorité au-dessus de moi, ce qui me permettait d'avoir du courage de tout faire. Et en fait, non. Il y avait juste un père qui me manquait.
Mais ça vous a peut-être donné le courage de tout faire.
Oui, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense de tout ça.
D'où le
titre. De mes sketchs, voilà. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de mes sketchs, ce qu'il pense de ma vie privée, tout ça. Qu'il puisse m'aider, un peu me conseiller. Mais je crois qu'il me protège quand même. Je suis un peu mystique et je crois qu'il me surveille et qu'il me protège.
Mais vous êtes surveillé par beaucoup de monde, alors.
Je suis surveillé par beaucoup de médecins, en tout cas. Vous vous rendez compte, la pièce qui est à l'affiche, ça fait 3 ans qu'elle est à l'affiche.
Les faux British.
Les faux British. Et c'est vraiment ce genre de théâtre où on joue 3 ans de suite la même pièce.
Ah oui, la 1037e. Il y a écrit, ils ont eu le Molière de la comédie en 2016.
C'est la 1037e. C'est-à-dire, il n'y a aucune ville en France où on peut jouer 1000 fois. Il n'y a qu'à Paris. C'est pour ça que je suis parti de Bordeaux.
Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on joue moins longtemps les pièces de théâtre qu'autrefois.
Oui, moitié moins.
Mais il y a quand même des pièces qui dépassent la 1000e.
Celle-là, c'est une des rares.
On va rentrer. Ben, je vous suis. Hein. Vous connaissez le chemin mieux que moi. Pourquoi c'est toujours rouge, les théâtres? Là, tout de suite, les escaliers sont rouges, les murs sont rouges.
Eh bien, il faut demander à la directrice. Moi, je vais vous dire une grosse connerie, à mon avis. C'est rouge parce que je sais pas, que ça fait chic. Je ne sais pas pourquoi les rideaux sont rouges. En tout cas, tous les théâtres à l'italienne dans Paris, oui, sont en velours rouge. Mais là, ce n'est même pas un théâtre à l'italienne, je crois, celui-là. Regardez, il y a des affiches de Maillan avec Croque-Monsieur.
Eh oui, c'est là qu'elle a créé Croque-Monsieur.
C'est là qu'elle a démarré sa carrière à 40 ans, un peu plus. Dans une pièce qui s'appelle Croque-Monsieur. Et c'est là où elle est devenue la Maillan.
Et vous, vous l'avez rencontrée, parce que vous en parlez longuement de Jacqueline Maillan dans votre livre.
Oui.
Et vous en parliez déjà avant. Vous avez toujours dit que c'était votre idole.
Ah oui, c'était c'était une révélation quand je l'ai vue jouer à la télé dans les pièces de théâtre. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux être drôle sur scène dans des pièces de boulevard. Et je comprenais exactement toute sa façon de jouer. Et quand j'ai vu Muriel Robin à la télé, au Théâtre de Bouvard, je me suis dit, mon Dieu, mais elle ressemble à Jacqueline Maillan. Tout le métier disait déjà que Robin était la nouvelle Maillan. Et en écrivant, en co-écrivant les sketchs de Muriel, eh ben, Jacqueline Maillan a su qu'il y avait un jeune auteur qui adorait Maillan. Et elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit, allô, c'est Jacqueline Maillan, voyons-nous. Ça, c'était mon idole, j'avais 22 ans. Et voilà, je suis allé la voir, elle m'a dit, écrivez-moi une pièce. Je lui ai écrit une pièce, elle l'a jouée, et puis elle est morte d'une crise cardiaque.
Ça s'appelait Pièce montée.
Pièce montée, c'est mon... Voilà.
Et elle est morte pendant qu'elle l'a jouée.
Tout à fait, elle est morte d'une crise cardiaque un matin. Elle devait jouer le soir. Mais c'est le plus gros choc de ma vie, c'est ma rencontre avec elle. Parce que rencontrer son idole, c'est comme... Vraiment, je l'ai déifiée, Jacqueline Maillan. D'ailleurs, beaucoup de gens la sacralisent aujourd'hui, comme de Funès.
On se retrouve dans un instant avec Pierre Palmade dans le théâtre Saint-Georges.
Bon week-end sur Europe 1. Ce dimanche, l'acteur et humoriste Pierre Palmade est en balade avec Frédéric Taddeï. On les retrouve maintenant dans un célèbre théâtre parisien au 51 rue de Saint-Georges.
Nous sommes avec Pierre Palmade dans le théâtre Saint-Georges devant les affiches rouges, elles aussi, de toutes les pièces qui ont été jouer ici les Saints de Lola avec Maria Pacôme. On m'appelle Émilie, toujours avec Maria Pacôme. Faisons un rêve de Sacha Guitry, interprété par Claude Rich.
Beaucoup de comédies de boulevard, c'était le temple du boulevard.
Maria Pacôme, Marthe Villalonga, Daniel Secaldi, Marie-Christine Barrault, Francis Perrin.
Il y a 30 ans, c'est les pièces que je voyais dans le programme de Paris.
Et ça revient à la mode, vous avez remarqué, Michel Faux, il est pour beaucoup. Hein, de rejouer Barillet et Grédy, là on voit l'affiche de Patate qui avait été jouée pendant 4 ans par Pierre Dux, une pièce de Marcel Achat.
Robert Lamoureux
juste au-dessus.
Et une autre de mes idoles qui est Michel Roux.
Qui était la star du théâtre de boulevard, théâtre ce soir à l'époque.
Exactement.
Et c'était la voix de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre, me semble-t-il.
Oui, il faisait beaucoup de doublage. Ouais.
Et c'est vrai que tout ce théâtre a été beaucoup méprisé. Vous adoriez ça à une époque où, justement, on aimait bien en dire du mal. Aujourd'hui, ça revient beaucoup. Hein.
Oui. Il y avait plusieurs chapelles. Il y avait le théâtre Intello, il y avait le théâtre grave, sérieux. Et puis le théâtre de boulevard était très méprisé, alors qu'il c'était populaire. Et je sais que, par exemple, j'ai une amie qui est Carole Bouquet. Elle me disait, quand elle était au conservatoire, elle allait voir Jacqueline Maillan en cachette. Parce que ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas. C'était vulgaire d'aimer Maillan quand on était au conservatoire, quand on faisait du théâtre chic et intellectuel. Alors que maintenant, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un génie, Jacqueline Maillan.
Jacqueline Maillan, qui d'ailleurs a également chanté des chansons. Vous connaissez sa parodie de « Je t'aime moi non plus » qu'elle interprétait avec Bourvil ?
Tout à fait.
Ça s'appelait « Ça ». Et bon, on va l'écouter tout de suite.
Avec plaisir.
Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi.
Ah bah tu vois, j'ai bien aimé, moi.
Oh bah toi, bien sûr, dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh,
il
fait chaud.
Ah oui, il fait chaud, oui.
Tiens, j'en fais autant.
Mais tu te mets nue?
Ouais.
Ah ben moi aussi, toi.
Bien fait.
On sent pas des salopes. L'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil.
Oui, et après ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes.
Oui. Oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi.
Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Ils l'ont dit.
Dis-moi.
Quoi?
On essaye.
Mais quoi?
D'avoir les rhumatismes. Oh.
Tu es bête. Mais je t'aime bien.
Moi non plus.
Serge.
Oui.
Éteins.
Ah bon, tu...
Éteins.
Tu veux que j'éteigne déjà?
Oui.
Bon. Voilà. Plus j'y repense et plus je trouve qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé.
Encore?
J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... Oh bah, t'as tort de rigoler. Elle te ressemblait.
Oh bah merci. Oui. Ah non, j'étais mieux qu'elle.
Oh, c'est à voir quand même.
Mais c'est tout vu. Ça, chez moi, c'était mieux.
Quoi ça? Ça?
Oh, ça peut-être pas. Mais ça, sûrement.
Ah, tu parles de ça que je tiens?
Oui, non, là, je savais.
Hein? Ah oui, ça, peut-être, oui.
Ouais. Et ça aussi, hein?
Quoi, où?
Ça, là, non, là. Là, là, non, là, 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 ça, le, ça, oui.
Ça?
Oui.
Là?
Oui, rappelle-toi, alors.
Ah, ah hein? Oui, ça, je dois dire, c'était pas mal. Je me rappelle.
C'est pas drôle, écoute. Tu me chatouilles.
Tu dis que c'est pas drôle, mais tu rigoles quand même. Hein.
Oh, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Oh. Allez.
Arrête.
Non.
Arrête.
Mais à quoi ça t'avance?
Ah, rien, c'est bon. Hein.
Qu'est-ce qui est bon?
Mais de rigoler. C'est toujours ça.
Oui. C'est toujours ça de prix. Oui. Oh!
Viens.
Et ça?
Oh, ben ça alors?
Oh!
j'y croyais plus.
Ah, moi non plus. On a bien fait d'en parler,
oh, oui,
tu vois.
Oh oui.
Dis-moi, Jen.
Oui.
Mais le rectangle blanc, hein.
Oui. Mmh. Oui.
C'était ça, interprété par Jacqueline Maillan et Bourville, une parodie de Je t'aime moi non plus, la chanson de Serge Gainsbourg. Jacqueline Maillan, est-ce qu'elle était si drôle dans la réalité, qu'elle l'était au théâtre ou au cinéma ?
Non, elle était très réservée, elle était très paisible. Elle devenait dingue sur scène seulement. Elle donnait tout sur scène. Et dans la vie, on ne pouvait pas deviner. D'ailleurs, elle me disait qu'un jour, la dame qui s'occupait de sa maison de campagne, elle ne la connaissait pas sur scène. Elle ne connaissait qu'une Jacqueline Maillan, toute sage, qui cultivait ses rosiers. Et un jour, elle va la voir au théâtre et elle la voit jouer une pièce de boulevard où elle était folle. Et sa femme de ménage lui dit « Ah ben ça, faut le voir pour le croire !» Parce qu'elle n'arrivait pas à imaginer que sa patronne puisse être...
Dans Pièce montée que vous aviez écrit pour elle, elle était seule sur scène, hein ?
Oui.
C'était la première fois ?
Retour à... Non, elle avait joué « J'ai deux mots à vous dire » de Jean-Pierre Delage en 86, mais c'était un retour au One Woman Show. Je crois que la pièce que j'avais écrite n'était pas très costaud. J'étais trop jeune. J'ai écrit très vite cette pièce à 22 ans dans l'urgence et je n'avais pas encore la maturité pour écrire quelque chose de solide. Donc Jacqueline a fait ce qu'elle a pu avec ce texte-là. Mais le fait qu'elle m'ait reconnue, qu'elle m'ait adoubée, qu'elle ait dit « Voilà, je veux jouer ce jeune auteur, je crois en lui », ça m'a donné des ailes.
Elle était inquiète, elle avait le trac quand bien même elle avait fait la carrière qu'elle avait faite.
Je ne sais pas ce qu'elle avait quand même composé pour le track. Non, c'était quelqu'un qui attendait avec impatience d'y retourner. J'ai vu des reportages sur elle, ce qui a été très réservé, donc je ne savais pas tout d'elle. Mais je sais qu'elle attendait patiemment toute la journée d'aller sur scène le soir.
C'était... Ah oui ?
Ouais, c'était sa drogue à elle.
Ce n'est pas votre cas, vous n'attendez pas toute la journée ?
Non, moi je suis un hyperactif, j'ai besoin de faire 15 projets dans la journée et finalement d'aller jouer le soir.
Vous arrivez dans votre loge combien de temps avant le spectacle ?
Très normalement, une heure, j'ai pas de toc, j'ai pas besoin de ressentir la salle ou tout ça. Non, j'ai besoin de pas être contrarié dans la journée, de pas être trop fatigué. Et j'ai besoin que ça soit plein aussi. Je suis habitué, je suis shooté au succès. Et...
Ah oui, c'est toujours plein, non ?
Non, c'est pas toujours... ça m'a toujours été plein dans ces dernières années. C'est bien, ça fait une leçon d'humilité. Mais ça va. Généralement, les gens savent que quand je fais une pièce, c'est un peu exigeant. J'essaie de me surprendre moi-même, donc ça surprend les gens aussi quand même.
Vous avez fait si souvent des zéniths avec Michel Larocque quand vous avez fait le spectacle On s'aime, et puis toutes les suites que vous avez faites ensuite. C'est pas trop grand, un zénith, si. Quand on joue une pièce de théâtre.
Si, c'est beaucoup trop grand. Moi, j'aimais bien d'ailleurs quand je joue ce spectacle dans des petites salles de 600, 700 places. Mais Michel Larocque, elle adorait les grands zéniths. Je disais, on avait l'impression que c'était Madonna et Louis Jouvet en tournée. Moi, j'adorais le théâtre et elle adorait les zéniths. Mais il y avait tellement de monde qui aimait notre duo. J'ai jamais refait des choses comme ça. Il n'y a qu'avec Michel, ça a été un... On a fait un couple avec Michel Larocque, un couple où tout le monde se reconnaissait. C'était assez magique. Et moi, c'était génial parce que c'était l'époque où je vivais mal le fait d'être homosexuel. J'étais marié avec Véronique parce que j'avais besoin de sentir que j'étais heureux avec une femme. Et d'être crédible avec Michel Larocque, même pour de faux, sur scène, qu'on croit à notre couple, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ? Parce que voilà, je me sentais d'une manière illusoire, hétéro. Et à l'époque, parce que maintenant ça va mieux, ça me faisait du bien.
Vous pensez que vous auriez été plus heureux, hétéro ?
Clairement.
Ah oui ?
Mais je crois que la société, tout, la société, la religion, même la culture, fait tout pour qu'on se sente mieux hétéro. Ça commence un petit peu à changer, mais...
En même temps, les hétéros...
Non, mais c'est surtout que j'ai un rapport de séduction avec les femmes. Ça, c'est un peu intime, mais j'ai l'impression que mon charme fonctionne mieux sur les femmes que sur les hommes, à mon grand désespoir.
Alors que souvent, vous voyez, les hétéros, je parle des hommes, se disent « Ah, si j'étais homo, ce serait plus facile. »
Oui, mais c'est souvent les très beaux mecs qui disent ça. D'abord, ils disent ça pour nous signifier qu'ils sont hétéros. C'est le message est clair. Mais c'est rarement, voilà. C'est pas moi qui peux dire ça.
On se retrouve dans un instant avec Pierre Palmade dans le Théâtre Saint-Georges.
Inauguré en 1929, le Théâtre Saint-Georges a vu se produire de grands comédiens. En 1980, François Truffaut y tourne son film Le Dernier Métro et c'est dans ce théâtre, justement, du 9e arrondissement de Paris, que nous retrouvons Frédéric Taddeï et Pierre Palmade. En balade avec Suite et Fin, c'est maintenant sur Europe 1.
Pierre Palmade, nous sommes au Théâtre Saint-Georges, ça vous rappelle le travail. Je me demande comment vous êtes en vacances.
Très difficile à calmer. En vacances, j'ai l'impression que le métier s'arrête. Et quand mon métier s'arrête, j'ai l'impression que je n'existe plus. Les mois de juillet et août sont très, très durs pour moi à supporter parce que ce métier, la télé ne marche plus. Ils ne font que des rediffs. Le théâtre, ça ne marche pas non plus. Enfin bon, c'est très compliqué pour moi, les vacances. Mais en même temps, quand vous dites travail, c'est pas mon métier, ce n'est pas un travail. Hein, c'est une passion. Puis là, ça devient tellement dur d'être drôle aujourd'hui.
Parce qu'il y a beaucoup de concurrence.
Il y a beaucoup de concurrence. Tout le monde est drôle. Tous les amateurs sont drôles avec des vidéos sur YouTube. Enfin, la concurrence est partout. Je me demande même si je ne vais pas commencer à faire des sketchs pas drôles pour me démarquer. C'est-à-dire, je vais faire un one-man show de sketchs grave, triste. Je vais être l'humoriste le plus triste de Paris. Je pense que j'ai un créneau.
Dites à mon père que je suis célèbre. C'est le titre du livre que vous venez de publier. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs vous disent après l'avoir lu ?
Ah, je voudrais qu'on dise « Ah, je comprends tout, je comprends mieux Pierre Palmade, c'est fait pour les gens qui ne m'aiment pas ce livre. »
Oui, parce que je vous ai dit, ceux qui vous aiment beaucoup, de toute façon, ils savaient déjà tout ça.
Ils n'ont pas à apprendre grand-chose. Mais c'est pour donner des raisons à ce qu'on voit de la partie émergée de l'iceberg. Certains pensent que je suis un fêtard désinvolte, qui pensent qu'à se faire remarquer, ben non, il y a plus de souffrance et il y a beaucoup plus de complexité et de souffrance. Il y a beaucoup plus de souffrance qu'on ne croit, parce que j'ai juste eu l'élégance de faire croire que je ne souffrais pas.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous n'aviez pas souffert, comme vous avez souffert, et vous le racontez en détail dans ce livre, enfin pas pour apitoyer les gens, mais simplement pour illustrer au fond votre propos, vous auriez été moins drôle, non ?
Certainement, mais les gens ne se disent pas aujourd'hui, les gens disent il est drôle, donc il est joyeux. Moi, j'ai tellement dit de choses, il s'est tellement dit de choses que j'avais envie de dire de manière très transparente. Et puis j'ai besoin de parler, enfin je trouve que c'est important de parler de la complexité d'être homo dans ces années qui évoluent. Parler de cette dépendance à la cocaïne, c'est une maladie illégale, donc c'est très compliqué d'aborder ce sujet-là. Je le fais le temps du livre et après, évidemment, je ne vais pas pérorer, je ne vais pas me vanter d'avoir pris de la drogue dans ma vie. Je me vante d'essayer d'arrêter et d'arriver peut-être à envisager une vie sans drogue. Et puis, je veux, si jamais on me trouve un tout petit peu, comment dire émouvant, en tout cas en souffrance, peut-être que ça aidera ma future carrière de comédien sérieux ou grave.
Vous imaginez
Ah oui, j'aimerais bien faire pleurer maintenant.
Comme tous les gens, tous les humoristes voudraient avoir des rôles sérieux.
Bah oui, parce que...
Alors qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile d'être un acteur drôle que d'être un acteur sérieux.
Mais j'ai fait le plus dur, d'une manière générale. Hein. J'ai fait le plus dur, j'ai fait drôle. J'ai fait alcoolique, drogué, j'ai fait tout ce qui était dur. Maintenant, je vais faire mec heureux et artiste sérieux. Et ça va être, mais alors, d'une facilité, cette vie.
Vous ne pensez pas que les gens heureux...
sont chiants ?
Oui, enfin, en tout cas, sur une scène...
Je prends le risque d'être chiant sur scène. Je ne vais pas non plus me détruire pour être drôle. Voilà. Non, je ne veux pas mourir sur scène. Je laisse ça à Dalida.
Vos sœurs sont toujours intéressées à votre carrière.
Oui, je crois qu'elles sont fières de moi. Je crois qu'elles sont fières de moi et elles me soutiennent dans mes moments difficiles. Et elles sont là pour le meilleur et pour le pire.
Parce qu'au fond, vous avez parlé beaucoup de votre mère et dans vos livres et dans vos spectacles, mais pas de vos sœurs.
La mère, un fils parle toujours de sa mère, donc la pauvre, elle est célèbre malgré elle. Mais sinon, non, je laisse ma famille tranquille.
À un moment, vous la citez et elle dit que c'est souvent dur pour une mère d'avoir un enfant célèbre. Ça l'énerve un peu qu'il y ait tant de gens qui connaissent aussi bien son fils.
Je crois que ça l'a déstabilisé au début, que son fils soit aimé par autant de gens. Voilà, je pense qu'une mère, des parents ont l'impression qu'on leur vole leur enfant quand il devient célèbre.
Comme les enfants, souvent, ont la même impression que leurs parents sont célèbres et qu'ils sont abordés dans la rue et ils se disent « Mais c'est qui ce type qui parle à mon père comme s'il le connaissait ?»
C'est vrai, ça marche dans l'autre sens, vous avez raison, je n'y ai pas pensé. Je pense effectivement que la famille réagit bizarrement quand un des leurs devient célèbre. Mais moi-même, quand les élèves de ma... Enfin, les élèves, non, les comédiens de ma troupe deviennent célèbres, comme Camille Cotin, je suis un peu déstabilisé parce que c'était des gens sur qui j'avais un ascendant. Il y avait même un ascendant un peu paternel. Je donnais des conseils, tout ça. Là, maintenant, pour donner des conseils à Camille Cotin, je peux vous dire, faut qu'elle réponde au téléphone.
Hein. Merci, Pierre Palmade, de nous avoir emmené en balade avec vous. Je rappelle que « Dites à mon père que je suis célèbre », le livre dans lequel vous racontez tout, absolument tout, vient de paraître chez Harper & Collins. Et que le dernier dimanche de chaque mois, vous réunissez la troupe à Palmade.
15 comédiens sur scène et un invité d'honneur.
Au Théâtre de l'Œuvre. L'invité d'honneur, le prochain, c'est Pierre Richard.
Oui.
Et puis ensuite, ce sera Isabelle Nanty. Je remercie le Terrasse Hôtel, je remercie le Théâtre Saint-Georges où nous nous trouvons actuellement. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Moi ?
Non, avec un autre.
C'était En Balade avec Pierre Palmade sur Europe 1. Votre émission à écouter ou réécouter en podcast sur europe1.fr.